Durant ce mois béni de Ramadan, au cœur de l'islam vous propose de commencer vos journées avec un brin de spiritualité. Nous serons en ligne en votre compagnie tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, à partir de 6h du matin pour la rediffusion du meilleur de ce qui se trouve dans notre grenier. Quant au vendredi, vous découvrirez de nouvelles émissions avec de nouvelles thématiques proches de l'actualité. Au cœur de l'islam, c'est tous les jours sur Radio Alger Chin 3 de 6h à 7h du matin et sur x.com, au cœur de l'islam, Chin 3.
Au cœur de l'islam, une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, salam, azoul, bienvenue à vous sur les ondes positives de la radio algérienne, Radio Alger, Chin 3. Et quel bonheur de commencer la journée en votre compagnie et de pouvoir vous être utile, surtout en ces temps où le flou, la tromperie et la propagande font ravage et où la victime est montée en bourreau. Et le bourreau nazi, raciste et suprémaciste passe pour le faible, pour celui qui a besoin de protection et de renfort. Et c'est pour cela que dans Au cœur de l'islam, nous faisons de notre mieux pour remettre les pendules à l'heure, pour donner du sens et pour rétablir la vérité et pour annoncer et rappeler les prédictions ou les prophéties de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et même celles de ses frères qui l'ont précédé. Salam alaykoum Kamel Shekat.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors aujourd'hui, quatrième numéro de cette série dédiée au messianisme. Qu'est-ce que le messianisme? Qui est le messie? Appartient-il à la période eschatologique apocalyptique de la fin des temps ou est-il concerné par une période révolue déjà passée? Y a-t-il une seule ou diverses conceptions messianiques? Qui sont les livres et les religions en relation avec le messie? Et puis, quelles sont ou quelles seront les fonctions messianiques? Sont-elles justes, spéculatives? Sont-elles reconnues par tout le monde, Kamel Shekat?
Écoutez, c'est très très difficile à expliquer, c'est tellement complexe, parce que nous, quand nous parlons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dédié une multitude d'émissions à cela. Toutes les annonces faites dans les livres qui ont précédé le Coran concernant le sauveur de l'humanité, le dernier prophète, le dernier messager, tout nous ramène vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les livres anciens, les écritures anciennes telles que les Védas, etc., tout ramène à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On nous parle d'un grand législateur dont le message couvrira le monde. Et généralement, les spécificités ou les caractéristiques de ce dernier messager nous donnent un homme ou un messager à la hauteur de Moïse alayhi salam. Même si nous partons du principe que le meilleur, le plus grand des messagers, c'est le dernier, c'est le sceau, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dis cela parce que rien de ce qui a été annoncé de ce dernier messager ne concorde avec la personnalité ou l'apostolat de Jésus alayhi salam. Cet homme viendra avec une loi, Jésus n'est pas venu avec une loi. Cet homme imposera le tribut de capitation à toutes les nations. Jésus payait le tribut à César. Son message est destiné à l'humanité tout entière, celui de Jésus était destiné uniquement, comme il le dit lui-même, aux brebis égarées des enfants d'Israël. Et puis, il n'était pas porteur d'une loi, il était conforme à la loi de Moïse, alayhissalam, qui a été abrogée par Paul de Tarse. Et quand nous étudions aussi l'histoire, le cheminement historique des Hébreux, nous nous rendons compte que rien ne concorde avec ce Messie tant attendu. Les Juifs attendent le Messie, le Mashiach. Et tout porte à croire que la seule personnalité qui puisse concorder avec ce qu'ils attendent, c'est l'Antéchrist. Oul'iyadou billah. Même si les Juifs traditionnels ne le savent pas, ou si beaucoup d'entre eux ne le savent pas.
Pardon, Kamel Shekat, qu'est-ce que vous appelez Juifs traditionnels?
Alors, nous parlons, attention, il faut savoir faire la part des choses entre les sionistes. Et les sionistes, ce n'est pas forcément des juifs. Attention, d'ailleurs même actuellement dans cet accident de l'histoire qu'on appelle Israël, vous avez des gens qui meurent, qui ont la nationalité israélienne, qui meurent mais qui ne sont pas soumis au Kaddish. Le Kaddish, c'est la manière de procéder aux ablutions funéraires et aux rituels mortuaires destinés aux juifs. Il y a des Israéliens qui sont enterrés dans des cimetières destinés aux Juifs. Il y en a d'autres qui sont dans des cimetières destinés aux Akoum, aux Goïm. Donc, être sioniste ne veut pas dire être juif par excellence. Et quand on parle des Juifs traditionnels, nous parlons de toutes ces communautés juives religieuses qui se refusent de vivre dans l'actuelle Palestine occupée. Mais ce qui nous importe le plus, c'est que actuellement, il nous faut, pour ne pas être injuste envers une catégorie de Juifs qui n'a rien à voir avec le sionisme, il nous faut faire cette différence.
Kamel Shekat, le chercheur Neher, écrit dans une de ses études que le thème de la terre est aussi fort que l'alliance et la Torah. La terre constitue un point fondamental dans la pensée juive. Les Juifs n'ont pas pu et ne peuvent pas oublier la terre promise. Et il parle d'une géothéologie selon laquelle le peuple juif est le perpétuel bâtisseur d'un espace, celui de Sion.
Écoutez, déjà le fait que Sion soit cité de la manière dont il est cité, je parle d'un espace géographique, dans l'Ancien Testament, ou ce que les Juifs appellent le Tanakh, veut tout simplement dire que ce livre est à brûler. Parce que Sion se trouve actuellement en Arabie Saoudite et non en Palestine. Déjà, là, nous sommes dans un problème terrible. Nous avons déjà démontré que la trace ou les traces de Mecca sont délibérément faussé, travesti dans l'Ancien Testament parce qu'on ne veut pas accorder à cette terre sur laquelle a vécu Ibrahim un certain temps et sur laquelle a vécu jusqu'à la fin de sa vie Sidna Ismaïl alayhi salam. Comme nous l'avons déjà démontré, c'est un livre qui ne vaut absolument rien. Et là, je suis large et généreux quand je dis ça. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas traiter tous les Juifs de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les considérer tous comme des criminels, comme des racistes, etc. Et quand nous parlons de ce qui fait la juiverie, entre guillemets, internationale, nous parlons beaucoup plus d'un courant qui se plie aux exigences des satanistes et de ceux qui veulent créer un nouvel ordre mondial. La religion est tout simplement instrumentalisée. Et l'Occident n'a pas trouvé mieux que des juifs athéiste pour jouer ce rôle dans cette partie du monde qui s'appelle la Palestine occupée et que certains veulent appeler contre vents et marées Israël.
Alors, selon la définition du judaïsme rabbinique, le messianisme est un sujet ancien, élaboré par les prophètes à l'époque exilique. Il est associé au salut, à l'alliance, à la justice, à la paix et à la reconnaissance d'une terre. Mais la figure du messie n'est pas précise. Elle est associée tantôt au roi, tantôt à un prophète, tantôt à un prêtre, tantôt à un peuple et même à un étranger. La preuve, Cyrus a été
oint de Dieu. Exactement. Oui, mais, et qui était un athéiste, hein, il ne croyait pas en Dieu. Donc, écoutez, premièrement, ce rattachement à la terre, il est intimement lié au culte.
Vous n'avez pas réagi à la phrase de Neher, géothéologie.
Géothéologie. D'ailleurs, les Juifs ont un principe qui s'appelle le principe de rédimer. C'est-à-dire que la terre ne peut être considérée comme pure que si elle se trouve sous la domination d'un Juif. Et c'est pour cela que, après 48, ils ont même défoncé une multitude de cimetières où étaient enterrés des musulmans. Pourquoi ? Pour purifier cette terre, justement. Le principe de rédemption de la terre. Et le problème avec le messianisme nouveau tel qu'il est, parce que le messianisme, à la base, il est beaucoup plus chrétien que juif, hein. Il n'a rien à voir avec la religion juive à la base.
Donc c'est pas aussi ancien que ça.
Non, pas du tout. C'est un sujet qui a été fabriqué de toutes pièces pour légitimer des guerres. Tout simplement, Il y a une vision expansionniste qui est celle de l'Église, autant catholique que protestante, et on a joué sur cela pour envahir des peuples, pour s'approprier des espaces géographiques, et tout, c'est tout simple. D'ailleurs, il y a un grand nombre d'orientalistes qui ont travaillé sur l'aspect économique des croisades, hein. On ne cherchait pas à libérer la Terre Sainte ou quoi que ce soit, on voulait tout simplement se faire de l'argent. Et pour ce faire, les Templiers ont même rendu licites les emprunts moyennant des taux usuraires, des taux d'intérêt, ce qui était normalement ce qui est interdit autant dans le judaïsme que dans le christianisme. C'est des politiques. Actuellement, ce qui se passe à Gaza, par exemple, vous voyez toutes ces flottes judéo-chrétiennes qui sont là-bas, ça s'inscrit dans justement dans une logique expansionniste et hégémoniste qui veut s'approprier le gaz de Gaza. Pas plus ni moins. C'est une affaire de gaz, c'est une affaire de sous. Comme ça a été le cas dans la majorité des guerres qui ont été, on va dire, mises au point carrément par l'Occident. Cette histoire de Tofan al-Aqsa, elle a tout révélé, elle a tout démasqué. Il n'y a plus rien à cacher. C'est-à-dire cette manière douce d'envahir, de s'approprier des choses, de se légitimer des guerres. Maintenant, c'est bon. Sous peu, peut-être qu'ils vont carrément nous dire, voilà, nous sommes la race supérieure, vous êtes des animaux à apparence humaine et nous n'avons d'autre choix que de vous exterminer. Point barre.
Justement, du moment que vous évoquez l'actualité, Kamel Chekat, nous avons un auditeur qui dit que ce qui se passe à Gaza est une véritable leçon de tawhid, d'unicité.
Absolument. Écoutez, quand nous avons parlé de la judaïsation de l'islam et par islam, nous entendons religion de Dieu, tout simplement. Une religion qui fait de celui qui la suit une personne soumise à Dieu. L'islam, c'est la religion de Moïse, de Jésus, d'Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion, elle a été dévoyée. Quand nous parlons de judaïsation, nous revenons au premier épisode qui est celui du roi Josias qui a carrément dénaturé la Bible, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, avec toutes les erreurs qui indiquent qu'elle a été falsifiée au 7e siècle avant Jésus, et cette soi-disant découverte du Deutéronome qui serait ou qui aurait été considéré comme un prolongement du livre de la loi qui est celui du Lévitique. Et qui est un véritable, vous avez cité une fois un auteur que je ne connais pas, mais c'est véritablement un projet national juif. C'est un projet
Douglas
politique.
Reed, la controverse,
oui,
de Sion.
De Sion. Donc ça n'a rien à voir avec la religion telle qu'on devrait la concevoir en tant que religieux. Et puis nous avons ensuite ce travail qui a été fait par Paul de Tarse, qui a dénaturé le christianisme. Nous avons aussi un autre juif qui va intervenir, qui est Abdullah ibn Saba, pour créer le chiisme politique. Et nous allons retrouver beaucoup, beaucoup de similitudes entre le chiisme et le judaïsme tel qu'on le connaît actuellement. Et puis vous avez la création du wahhabisme. Il y a un livre qui s'intitule les Mudakkirat, les mémoires de Mr. Hanfer. Il y a beaucoup d'auteurs européens qui ont dit non, ce livre n'a jamais existé. C'est un livre qui a été écrit par les sunnites. Comment ça? On ne le sait pas. Mais ces mêmes occidentaux, quand vous leur dites il y a eu un pacte de Médine qui faisait dans le vivre ensemble. Il y a eu le pacte omarien en Palestine qui donnait matière à toutes les religions de vivre en symbiose. En Espagne, il y a eu ce que certains historiens ont appelé la convivencia. C'était donc Bagdad, Damas et Córdoba. C'était des villes cosmopolites où toutes les religions cohabitaient dans une paix incroyable. Concernant justement les mémoires de Humphrey, tout le monde vous dira non, c'est un livre qui a été écrit par des musulmans juste pour incriminer qui ? Mohammed ibn Abd al-Wahhab.
Donc la leçon du tawhid, vous y avez répondu ?
La leçon du tawhid, c'est quoi ? Alors, vous avez depuis pratiquement 20 ans, les wahhabites, les madakhila, ne cessent de nous bassiner avec un tawhid vide de sens, qui ne sert absolument à rien, en vous disant, oui, le tawhid, si vous voulez vraiment faire dans l'unicité de Dieu, il faut déjà connaître Dieu. Où est Dieu ? Où est Dieu ? Et inna Allah fis sama, comme si ça pouvait nous apporter quoi que ce soit. Et nous sommes dans les débats, c'est tous ces débats théologiques stériles, inna Allah yanzilu, Dieu descend chaque dernier tiers de la nuit vers le ciel terrestre, et quiconque donc se réveille pour faire des génuflexions comme ça, pour faire des prières surérogatoires. Et Dieu dit, y a-t-il quelqu'un qui aurait une demande que j'exaucerai? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se repentir et à qui je donnerai l'absolution? Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, hal min da'in fa'astajib lahu. Donc il y a eu énormément de débats, les gens, comment Dieu descend-il, est-ce qu'il est confiné dans une place, s'il se déplace de cet endroit, est-ce que s'il y a un vide qui se crée, est-ce que c'est de l'air qui va le remplacer, etc. Mais personne n'est allé à l'essentiel comme l'ont fait Sahaba. Ils se sont tout simplement donné pour mission de se réveiller au dernier tiers de la nuit et de faire des prières surérogatoires. C'est ça Tawhid. Tawhid, c'est, nous avons une fois cité, plusieurs fois même, cette anecdote de Sahib Kitab Zuhd.
Imam Ahmed.
Non, Abdullah ibn Mubarak, qui était à la tête d'une caravane qui allait à la Mecque. Il arrive dans une bourgade, il voit qu'une femme était en train de chercher dans les poubelles. Il demande à tout le monde de faire un petit bivouac, enfin de faire une halte. Et il va interroger la femme, qu'est-ce qui te pousse à chercher comme ça dans les poubelles? Elle dit, j'ai des enfants en bas âge qui ont faim et je cherche quelque chose à leur donner, à manger, tout simplement. Il prend toute la cassette de la caravane, il la lui donne et quand tout le monde revient, il leur dit, retournez chez vous, cette femme, ou l'œuvre faite pour cette femme vous suffira. Cette femme vous a donné le salaire d'un pèlerinage pour cette année. Et personne ne s'est opposé à ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que c'est ça, Tawhid. C'est faire de la dignité d'un être humain, qu'il soit musulman ou pas, faire de la dignité d'un être humain un objectif sacré. Nous avons, quand on dit musulman ou pas, nous avons Omar ibn Khattab qui passe par un juif qui était en train de mendier. Il lui dit, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Il dit, au commandeur des croyants, je dois payer le tribut de capitation, le jizya. Et maintenant que je suis vieux, je n'arrive plus à travailler, je ne peux plus payer. Il a dit, nous l'avons appauvri dans sa jeunesse et nous l'avons délaissé dans sa vieillesse. Et il lui a alloué, à lui ainsi qu'à toute personne qui se trouvait dans son cas, il lui a donc réservé des allocations provenant du trésor public, Beit Mal Muslimin. Donc, c'est ça, Tawhid. Et actuellement, quand nous parlons de Gaza, moi, je suis plus qu'étonné de voir des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, parler comme des savants. Ça, c'est des gens qui sont dans le cœur de l'islam. Ils ne sont pas dans les corses comme nous le sommes. Et c'est ça, le véritable Tawhid. Nous avons un hadith, cette
Excusez-moi,
femme...
Kemal Chekat, rappelez-vous de votre idée, ou bien cet enfant à qui on fait une intervention chirurgicale et il psalmodie le Coran?
Oui, il commence à lire le Coran. Et malheureusement, celui-là, il a pu lire le Coran. Moi, j'ai vu la vidéo d'un médecin qui pleurait à chaudes larmes. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'il était en train d'amputer est mort de douleur.
Oui.
De douleur, parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'anesthésion. Et pire encore, ces gens-là ne trouvent pas de quoi bander uniquement des blessures, alors que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ça reste à vérifier, et je demande à nos auditeurs aussi de faire des vérifications. Il paraît que le mot gaz, une gaz, on appelle ce bandage de la gaz, parce que ça vient de Gaza, le tissage. La première fois de l'histoire que c'est apparu à Gaza. Et on a appelé ça une gaz, en référence à Gaza. Et Gaza, en dépit du fait qu'elle ait donné et transmis tout cela au monde entier, ne trouve pas les moyens les plus rudimentaires pour soigner ses blessés. Et donc, pour revenir à ces leçons de Tawhid, il y a une femme qui, à l'époque du messager de Dieu, alayhi salatu salam, a perdu un enfant. Elle était dans tous ses états, elle a même proféré des choses qui étaient inconvenables vis-à-vis de Dieu. Et le messager de Dieu, alayhi salatu salam, quand on lui a rappelé qu'elle était pratiquement en infraction vis-à-vis de Dieu, « قَالَتْ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَجِعُونِ » Là, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a dit, c'est pas ça le fait de se montrer endurant. « الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى » On est réellement endurant quand on reçoit, quand on fait face au choc, en disant des choses qui plaisent à Dieu. Ce hadith de, où les anges remontent vers Dieu après qu'une personne ait perdu un enfant. « Qala ma qala abdi » qu'a dit mon serviteur. Ils ont dit il t'a loué « Hamidaka wa starja'i ». Ensuite, il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Qala ibn li bayti baytan fil jannati wa sammuhu bayt al hamd. Construisez pour mon serviteur une demeure au paradis et appelez-la la demeure de la louange. Et là, je ne sais pas, nous avons vu des enfants en train d'apaiser, j'ai vu une fille en train d'apaiser son père en lui disant « Ne pleure plus, il est au paradis, ne pleure plus, c'est bon, ne pleure plus ». Une fille de, je ne sais pas, 3 ans avec laquelle un journaliste discutait, lui dit qu'est-ce qui se passe ? Elle lui dit « Ça, ce sont des épreuves par lesquelles Dieu vérifie ou nous examine un peu notre foi et si nous supportons ou pas. » Il lui dit « Et toi, tu ?» Et elle dit « Oui, moi, je supporte. Tahammalt. Subhanallah wa bihamdeh. »
Cheikh Hassanat Kamal Shakat parlait de l'avant 7 octobre. Il disait qu'il y avait 3000 étudiants qui avaient appris le Coran, qu'il avait donc mémorisé à la veille du 7 octobre. Ils ont passé toute la nuit jusqu'au 7 octobre en train de psalmodier le Coran. Il y avait une préparation autant spirituelle que militaire que...
Écoutez, il y a une chose. Nahnu qawmun lam nantasir qat bil atadi wal udda. Nous, les musulmans, nous sommes une communauté qui n'a jamais vaincu par le nombre ou par l'armement. C'est une communauté qui a toujours vaincu par la foi. Oui, nous sommes à l'image de ceux qui ont combattu Goliath. À l'image de ceux. C'est eux qui ont dit, ce sont ceux. C'est ça, ce qui est bien, c'est que ces juifs qui ont combattu avec Saul, contre Goliath, et parmi lesquels se trouvait David, alayhi salam, ce sont nos frères en religion.
Bien sûr.
C'est eux qui ont dit « Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratin bi'idnillah ». Combien de fois un petit groupe a vaincu ou l'a emporté sur un groupe en grand, en surnombre, avec l'aide de Dieu.
C'est pour ça que M. Kat, que dans une des conférences de Imran Hussein, il dit que le royaume de Daoud alayhi salam ou Sulayman alayhi salam étaient des royaumes musulmans.
Absolument. Écoutez d'ailleurs, cette terre promise, au moment où ils étaient censés la pénétrer, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, oui, ils ont dit à Sidna Moussa alayhi salam, ton Seigneur, combattez, nous restons ici, là où nous sommes. Donc la punition, c'était quoi ? فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ. Et là, il y a un waqf. Elle leur est donc désormais interdite. Ensuite, il y a eu une punition. أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. Ils vont errer sur terre pendant 40 ans. Et cette errance, elle s'est faite, elle est citée dans l'Ancien Testament. Et ensuite, après que Moïse, alayhi salam, soit mort, normalement c'est Josué qui l'a remplacé, Yosha. Même si nous avons dans le livre de Josué, il y a beaucoup de guerres, etc., je pense que tout cela, c'est du faux. Les Hébreux sont... Ça me fait rappeler cet adage qui dit « La culture, c'est comme de la confiture. Moi, on n'en a plus en étal. » Les Juifs sont un groupe qui n'a aucun courage. C'est connu dans l'histoire. C'est des peureux de première catégorie. Ils n'ont jamais gagné de guerre. Et ce mythe de l'armée invincible qu'ils ont créé... Nous savons qu'il y a, disons-le, il y a le roi du Maroc qui a contribué à la débâcle de 1967. Maintenant, c'est déclassifié, donc c'est des documents qui sont sortis, on n'en parle plus normalement du monde. Et il y a un autre régent, dont nous ne citerons pas le nom, qui recevait $1 million par mois pour toutes les trahisons qu'il a faites contre la Palestine, ou pour permettre aux Juifs d'avoir la même mise sur la Palestine. Et quand ces gens-là ont été combattus par des gens libres, comme c'était le cas avec le Hezbollah en 2006,
oui,
comme c'était le cas avec Hamas en 2014, ils ont reçu une raclée. Et là, actuellement, la raclée, elle est encore plus grande. Il y a des sources de chez eux, Shahidun min Aliyah, qui parlent de 3000 soldats morts et de 11000 soldats blessés. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est
tu es par les Palestiniens ou par les anges, Kamal Shakat?
Je ne sais pas, en tout cas, même eux...
Cette histoire du combat des anges, Kamal Shakat?
Écoutez, maintenant, est-ce que ceux qui combattent des musulmans voient des anges avec des épées ou je ne sais quoi, combattre avec eux? Ce qu'on sait, c'est que vous êtes tout un régiment blindé, vous avez face à vous 10-15 personnes qui combattent comme 300.
Personne.
Tout simplement, et nous l'avons vu, c'est-à-dire que là, actuellement, il y a même des rabbins qui en parlaient, qui ont fait part de témoignages provenant de grands officiers de cette armée de Tsahal, qui vous disent, honnêtement, nous sommes en train de combattre des fantômes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que quand on parle de tawhid, quand on parle de aqida, ces gens-là ont tout réuni sur le plan spirituel qui leur permettent de faire face à toutes ces armées. Attention, actuellement, cette partie de la Méditerranée, la côte de Gaza, est la zone la plus militarisée et la plus nucléarisée au monde actuellement. Il n'y a pas que l'armée dite israélienne qui est en train de combattre. Et nous savons que tout le monde est en train de contribuer, toute l'alliance judéo-chrétienne, toute l'Europe. D'où la nécessité de réfléchir sérieusement sur nos relations avec les États-Unis, avec la France, avec l'Angleterre, avec tous ces pays. L'histoire est en train de se refaire. La trahison des Arabes alliée à la puissance de Bani al-Asfar, c'est-à-dire des Romains de l'époque ou des Byzantins. C'est la même chose. Et donc ces gens-là ont tout réuni. C'est une question existentielle. Où j'existe, où je disparais. Est-ce que cela vaut-il le coup de vivre dans cette indignité, je ne sais pas comment appeler cela, cette soumission, cet effacement, ce nihilisme qui est celui de l'Occident vis-à-vis du peuple palestinien. Ces gens-là ont choisi de libérer leur terre, de s'émanciper eux-mêmes. Et franchement, nous nous retrouvons dans le même schéma qui était celui des combattants de 1954. Ici en Algérie. Attention, le djihad, il a commencé au tout début de l'invasion française. Il s'est poursuivi tout au long des 132 ans d'occupation. Mais en 54, l'armée française était hyper puissante. Elle avait derrière elle une alliance qui s'appelait l'Alliance Atlantique. Et ces gens qui avaient des armes rudimentaires, quand ils ont décidé de faire une révolution, beaucoup disaient, c'est des fous. Vous êtes fous de vous attaquer à tout cela. Et ils l'ont fait. Ils ont agi comme ont agi les premiers compagnons du prophète et les premières générations de musulmans qui refusaient la tyrannie et tout ce qui caractérise actuellement ce nouvel ordre mondial qui se profile à l'horizon. Et ils ont fait ce qu'il fallait faire, tout simplement. Parce que, est-ce que nous avons le droit de vivre dans la soumission à ceux qui déclarent la guerre à Dieu? Nous n'en avons pas le droit. Et à partir de là, oui, ces gens, vous savez, ces gens se sont entraînés, ils se sont préparés militairement et ils se sont surtout préparés spirituellement. Et là, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai dit ici ou sur d'autres plateaux, nous sommes face à deux scénarios. Soit c'est la fin de l'entité sioniste et à partir de là, on va entrer plein pied dans les signes avant-coureurs de l'heure dernière. Soit cet épisode se terminera à la faveur du nouvel ordre mondial de l'Alliance judéo-chrétienne, et à partir de là, Tufan al-Aqsa aura réussi dans la mesure où cette offensive aura mis à nu toutes les faussetés qui sont répandues par la nomenclatura politico-médiatique occidentale. Là, actuellement, c'est bon, tout le monde a compris comment fonctionne le monde.
Alors, nous nous rapprochons doucement mais sûrement de la fin de ce numéro d'aujourd'hui, le quatrième numéro donc consacré au messianisme. Avez-vous entendu parler de ces conversions, Kamal Shekat, de beaucoup de jeunes américains à l'islam?
Ça, c'est dû justement...
Cherchant à savoir d'où a émané ce courage des Palestiniens.
Cette force, oui. Et cette puissance, c'est celle de la foi, qu'on le veuille ou non. Et vous savez, nous avons déjà cité ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Taqumu sa'atu wa rumu aktaru ahli l'ard ». Et le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, nous donne des occidentaux, hein, parce qu'il parle de Bani al-Asfar, il parle des Européens tels qu'on les connaît actuellement. Il dit que ce sont des gens... Et vous avez remarqué que ces gens-là ont des caractéristiques qui dépassent celles des musulmans qui sont normalement plus concernés par ce conflit que ces gens-là. Mais ces gens font des choses, ils lancent des traintes, mais c'est incroyable, ils sont en train de faire des choses qui aident énormément la Palestine. Et nous, malheureusement, nous, la communauté arabo-islamique du monde, elle ne pèse rien par rapport à ces gens-là. Et le messager de Dieu, alayhi salam, nous le dit, ce sont des gens qui se relèvent très très rapidement après un choc, ce sont des gens qui reviennent à la charge après une défaite, ce sont des gens parmi lesquels le pauvre, le démuni et l'orphelin ne sont pas délaissés, mais mieux que ça, ce sont des gens face à qui on ne peut imposer de dictat. C'est-à-dire que les dictateurs ne peuvent pas s'imposer à ces populations-là. Et là, actuellement, vous allez remarquer que tous ces suppôts de Satan, parce qu'actuellement, c'est bon, quand vous parlez de certaines personnalités politiques mondiales qui sont sur la scène actuellement, surtout sur la scène médiatique, tous ces gens-là, il faut bien comprendre que c'est des satanistes. Les preuves sont établies, c'est bon. Mais en dépit de cela, ils sont obligés, face à toutes ces populations, de jouer le jeu de la démocratie. Et ça correspond à ce que dit le messager de Dieu. Ça veut dire que ces gens-là ont atteint une maturité sociale et politique qui fait que ce sont des gens qui sont en mesure de bâtir des sociétés et de bâtir aussi des civilisations. Bien qu'actuellement, nous sommes sur le déclin de la dite civilisation occidentale, si on peut la qualifier ainsi, parce que d'un point de vue purement scientifique ou même social, tout ce que cette civilisation nous présente, c'est une pâle copie de ce que l'islam a laissé comme legs en Occident, hein, tout simplement. Donc, tawhid, pour revenir à votre question, tawhid, l'unicité de Dieu, ce que les wahhabites et les madakhila chantaient à tue-tête tout au long de la journée, oui, le tawhid et je ne sais quoi, alors que c'était du faux tawhid, du tawhid folklorique, ces gens-là sont en train de le mettre en pratique et sur toutes les couches sociales de cette population de Gaza.
Merci pour cette réponse, Kamal Chekat. Notre ami Shafiq vous demande comment venir en aide à nos frères en Palestine, comment leur assurer un minimum de confort et de réconfort. Est-ce qu'il y a moyen, selon vous?
Écoutez, dans l'état de faiblesse dans lequel nous nous trouvons actuellement, je pense que la première aide que nous pourrions justement donner, prodiguer à nos frères et à nos sœurs là-bas, c'est déjà de se réformer soi-même. Quand on adresse à Dieu des prières, on choisit les moments les plus opportuns. Il y a des moments qu'on appelle sa'atul ijaba, les moments propices à l'exaucement des prières. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait être dans une relation avec Dieu qui permette que Dieu exauce vos prières. On ne peut pas faire le 421 tous les jours et puis aller dire à Dieu « Ya Rabbi, Ya Rabbi ». À l'image de ce hadith cité par le messager de Dieu, qui cite un homme en voyage poussiéreux, oui, et qui dit Yarbi Yarbi, alors que sa nourriture est illicite, ce qu'il porte est mal acquis. Comment Dieu va-t-il ou peut-il exaucer sa prière ou ses prières? Comme vous l'avez dit. Il faut déjà donc sortir de cette situation, se réformer. Travailler sur soi-même pour être, on va dire, en adéquation avec les préceptes et les commandements de Dieu, ça c'est déjà le premier pas. Parce que la première chose que nous pourrions donner à nos frères et sœurs là-bas, c'est dua, c'est prier Dieu pour leur porter assistance, pour être à leur côté. Et puis ensuite.
C'est important donc qu'il soit agréé, ce dua.
Bien sûr, bien sûr. Donc si vous êtes aux antipodes de ce que Dieu veut ou souhaite de vous et que vous lui adressiez vos prières, je vois mal comment elles pourraient être exaucées.
Donc se réformer
soi-même. Ensuite, tous les moyens sont bons. Il y a un moyen qui est très très bon mais qui n'est pas suivi par beaucoup beaucoup d'Arabes ou de musulmans, alors qu'il est fortement suivi en Europe.
Qui est ?
Le boycott de tous les produits qui contribuent à maintenir Tsahal, cette armée sioniste, en vie. Toutes ces grosses boîtes, ces grosses sociétés qui réservent ou qui allouent une partie de leurs bénéfices, qui la destinent à l'armée sioniste et avec lesquels elle achète des balles, des munitions, des missiles, etc.
Mais il y a des marques Kamashekat qui ne déclinent pas leur identité, leur fond et...
Actuellement, vous savez, il y a tout un travail qui a été fait par des Européens et des organismes comme ça. Vous pouvez télécharger, par exemple, une application qui s'appelle No Thanks, non merci. Vous suffit de mettre les brands.
Les marques.
Les marques. Et on vous dit, cette marque travaille pour l'entité sioniste, l'occupant sioniste ou pas, tout simplement. Il y a énormément. L'information, vous pouvez l'avoir.
Au moins les grandes marques, elles sont connues, Kamal Shekat.
Au moins, oui. Et c'est, vous savez.
Les supermarchés, les hypermarchés,
les boissons, etc. Et vous savez qu'actuellement, sur le plan économique, c'est une hécatombe, autant pour ces marques-là que pour l'entité sioniste. Les juifs, les israéliens, comme on les appelle. Et je dis, on n'a pas le droit de les appeler israéliens parce qu'on fait référence à Israël, Israël, qui était un noble prophète, qui est Yaakov, alayhi salam. Ces gens-là, on devrait les appeler les lucifériens, les diaboliques, les animaux à apparence humaine. Appelez-les comme vous voulez, mais il faut jamais les attribuer à Israël, alayhi salam. Mais en tout cas, pour la première fois de l'histoire, ils sont tombés dans leur propre piège. Vous savez, il y a quelque temps, cet État s'est retrouvé dans l'obligation de se faire prêter en urgence, parce que l'aide américaine tarde à venir, en urgence 6 milliards de dollars avec des taux d'intérêt plus qu'exorbitants. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus solvables. Oui. Et ça montre à quel point l'économie, ou leur économie, ainsi que celle de leur suppôt à travers le monde, a pris un coup. Il y a une boisson très très connue. Actuellement, j'ai su par des connaissances qu'en France, par exemple, cette boisson, qui se vendait à des prix quand même, bon, une bouteille d'un litre et demi, c'était presque 2 euros. Maintenant, le fardeau de 6 bouteilles est à 2,50 euros. On appelle ça de la détresse, hein, c'est-à-dire que c'est des marques qui sont en train de faire des rabais incroyables juste pour pouvoir écouler les stocks de marchandises. Donc il y a le boycott, il est très très important. Et ne le minimisez surtout pas. Ne vous dites pas, oh oui, moi je vais boycotter telle boisson, si je suis le seul à le faire, ça va rien apporter. Mais oui, c'est vrai. Mais si nous sommes 1 milliard, presque 2 milliards de personnes à dire cela, nous sommes dans le faux. Puis, d'un autre côté, attention, il ne s'agit pas d'un élan civique, il s'agit d'un point qui s'inscrit dans la doctrine, l'aqida, l'wala ou l'bara. C'est-à-dire que là, soit vous appartenez à cette communauté de l'islam, soit vous êtes l'un des ennemis de cette communauté de l'islam.
Donc ceux qui ne se sentent pas concernés, qui n'agissent pas pour la Palestine ?
Vous n'agissez pas dans ce sens, vous achetez un produit au sujet duquel... Vous avez des informations qui disent que la société en question fait partie des sociétés qui contribuent à l'essor économique de cet accident de l'histoire appelé Israël. Vous, ça ne va absolument rien vous faire. Mais si nous partons du principe qu'avec l'argent des bénéfices de ce produit, cette armée d'occupation arrive à s'acheter ne serait-ce que des balles, et quand vous êtes au courant du nombre d'assassinats au quotidien depuis 75 ans dans cette entité malfaisance, je suis désolé, vous avez contribué au meurtre d'un enfant, d'une femme, d'un homme, d'un innocent, tout simplement. Vous y avez contribué. Et c'est pour cela que dans Sourate Al-Kahf, nous avons ce verset qui fait très peur. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Comment se fait-il que ce livre dans lequel sont consignées nos œuvres, ne laisse rien passer, même la chose la plus insignifiante, elle est inscrite. Et je crains fort pour beaucoup d'entre nous que le jour de la résurrection, nous nous retrouvions justement dans cette situation où nous allons trouver nos livres pleins de ces actions auxquelles nous n'avons prêté aucune attention, mais qui ont coûté la vie à une personne. Le fait de savoir cela, le fait de prendre conscience de cela fait que tous ces produits deviennent illicites, haram, pour tout musulman qui prétend faire partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas en train de faire de la politique. Nous sommes en train de parler d'une chose qui s'intègre dans la deuxième vocation de la révélation coranique, qui est la préservation de la vie. Je m'explique encore plus. Supposons que vous ayez un État chrétien qui s'attaque à un autre État chrétien. Par exemple, je vais aller plus loin. Vous avez l'Allemagne du Troisième Reich qui est en train de massacrer des Juifs, même si cette Shoah, c'est de la Shoah business. Nous savons très très bien que tout ce que racontent les vainqueurs ne s'est pas réellement produit. C'est vrai que qu'il y a eu des déportations, etc., mais il y a beaucoup beaucoup de mensonges. Et puis, à l'heure actuelle, nous en avons la preuve. Nous sommes face à un Occident qui arrive à travestir la vérité devant, sous nos yeux, comme ça. Vous regardez la chose et il vous dit « Non, non ». Ne te fie pas à ce que tu vois, tout est suggestif. Voilà ce qui se passe en réalité. C'est plus qu'affolant. Donc, supposons que nous nous retrouvions, allez, nous allons faire un petit retour en arrière, faire un voyage dans le temps. Nous sommes en 1943 et vous avez des produits qui soutiennent le Troisième Reich, avec lesquels le Troisième Reich arrive à s'acheter, à se fabriquer des armes, des munitions, etc. Ce produit, vous qui êtes musulmane et qui n'avez absolument rien à voir dans ce conflit, vous n'avez pas le droit de l'acheter ou de le consommer parce que vous savez qu'avec ce produit, vous aidez, vous contribuez au massacre d'une personne. La vie de l'être humain étant précieuse, on ne cherche pas à savoir si cet être humain est chrétien, juif ou musulman. On n'a pas le droit de contribuer au mal, à quelque degré que ce soit. Alors, que pourrait-on dire de produits qui sont en train d'enrichir des États ou des puissances qui contribuent ou qui travaillent directement contre l'islam et les musulmans, comme c'est le cas actuellement en Palestine? Il faut prendre conscience de tout cela. Et puis, je suis désolé, on peut se passer de tous ces produits, de toute manière, tous ces produits qu'on connaît. Vous savez, Dieu vous dit dans le Coran « Wa kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba ». À chaque fois, il y a le mot « tayyib » qui revient. On ne se contente pas de manger ou de consommer quelque chose de licite. Il faut que le licite aussi soit à la hauteur de ce qui est souhaité par Dieu. C'est-à-dire que quand nous parlons de halal tayyib, nous parlons du licite, mais qui est pur, pur. Ce mot n'a jamais pris autant d'importance qu'à l'heure actuelle. Nous vivons en termes de nourriture, nous vivons dans une époque, dans l'époque de la malbouffe. Par exemple, le fait d'aller manger à l'extérieur de la maison des pizzas ou des hamburgers, ceci devrait normalement, ne devrait pas se faire beaucoup. Si vous vous permettez avec votre petite famille une sortie, disons par quinzaine, ça ne pose pas de problème. Mais il y a des gens qui mangent cela tous les jours. Ça vous rend malade, tout simplement. La chose n'est plus à prouver. Alors, tous ces produits déjà à la base que nous savons maintenant qu'ils contribuent à l'essor économique des Hébreux, tous ces produits, même s'il n'y avait pas ce conflit, normalement devraient être bannis de tout ce qui fait la nourriture du quotidien, parce qu'ils sont mauvais pour la santé. Et à plus forte raison, quand vous savez que ces produits-là sont les produits que j'appelle moi actuellement les produits du mal, je suis désolé. Donc les gens qui n'arrivent toujours pas à se résigner à ne plus acheter telle ou telle boisson, telle pâte à tartiner, tel produit lessive, etc., en sachant que ces produits travaillent pour l'entité sioniste, ces gens-là, je leur dis tout simplement, vous êtes en infraction vis-à-vis de ce que Dieu souhaite de vous en tant qu'être humain, pas en tant que musulman.
Oui. Vous avez raison. Ça servira donc à ça. Ça servira à tuer les Palestiniens, les Gazaouis et même
c'est clair,
beaucoup de musulmans.
Ça
servira à faire main basse sur les gisements de gaz à Gaza, mais aussi à réaliser le canal Ben Gourion, Kamal Shakat.
Actuellement, vous savez, parmi les documents qui commencent à filtrer de ce que le Wall Street Journal appelait le trésor de Hamas, nous savons qu'il y a un plan en trois étapes pour... c'est une épuration ethnique.
Ouais.
Ce qui donne une idée de tous ces pseudo-juifs qui ne connaissent rien des écritures juives et qui ne font qu'instrumentaliser la religion juive pour un projet national qui, en fait, n'est même pas destiné aux juifs. Il travaille pour l'établissement de ce que Albert Pike appelait le gouvernement de Lucifer.
Le gouvernement de Lucifer, Kamal Chekat, Ahmed Abdelkrim Djouhari cite assez souvent un verset où ceux qui seront en enfer demanderont à Dieu Rabbana arina ladayna adallana min al-jinni wal-ins. Et selon lui, le djinn c'est Iblis.
Iblis ou l'abad, ça commence.
Exactement. Mais l'ins, ça concerne Dajjal. Que pensez-vous de cette interprétation, de cette exégèse, Kamal Chekat?
Dans les exégèses qui font référence, ou chez les exégètes qui font référence, et nous partons de ce qui a été dit autant par les compagnons du prophète comme Ibn Abbas, ou bien ses disciples parmi la génération des successeurs, tabi'in, ladayni adallana min al-jinni wal-ins. L'ins, on a dit, c'est le fils, c'est Ken, c'est le fils d'Adam qui a perpétré le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Bon, ça c'est ce qui a été dit par les premiers. Actuellement, je pense que cette tendance qui tend à dire que c'est le Messie Dajjal, l'Antéchrist, elle est beaucoup plus plausible dans la mesure où nous avons un hadith « Man sunna sunnatan siyyatan falahu wizruha wizru man abina biha ». Donc, quiconque institue une mauvaise action recevra sa peine et la peine de ceux qui la perpètrent ou ceux qui la font jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est ainsi que le Ken, le fils d'Adam qui a tué Abel, va, à chaque fois qu'il y a un meurtre sur terre, vu que c'est lui le premier qui a ouvert justement la voie, recevra une part de la punition de celui qui aurait ou de celui qui aura perpétré un meurtre.
Donc il ne s'agit pas du Dajjal.
Non, je veux dire qu'il ne peut pas, dans ce hadith ou dans ce verset de sourate Fussilat, Rabbana arina alladhayni adallana min al-jinni wal-ins, Seigneur Dieu, montre-nous ceux qui nous ont égarés parmi les djinns et les humains, ça ne peut pas concerner Ken, parce que Ken n'a pas induit en erreur les gens. Il a juste ouvert une voie qui est mauvaise et qui va lui coûter beaucoup. Je pense que la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur une comparaison entre Jésus alayhi salam et l'Antéchrist.
On avait commencé, Kamal Chekat, le récit de Tamim Dari au sujet
D'accord.
de sa rencontre
D'accord.
du Dajjal.
Bon, aujourd'hui, vous aviez proposé de revenir un peu sur les interrogations des
les
auditeurs.
Uns et des autres,
c'est pour
oui.
ça que nous allons devoir différer la chose à une prochaine séance. Mais en tout cas, comme le disait si bien l'un de mes maîtres, Cheikh Mohamed Sherif Gahar, docteur Mohamed Sherif Gahar, kullu tafsirin salihun li zamani. Chaque exégèse est bonne pour son époque, à condition que ça ne porte pas atteinte à un commandement divin ou autre. Et je pense que cette vision du Messie Dajjal est beaucoup plus proche de la réalité que ne l'est Qabil, Ken qui a tué Abel, selon ce que disent les premiers exégètes, autant ceux faisant partie de la communauté des compagnons que de ceux qui les ont suivis. C'est ce que j'ai pour le moment. On pourra développer le sujet beaucoup plus.
De toute façon, les détails ne manquent pas à Kamal Chekat et on est curieux d'en savoir un peu plus sur le messianisme et surtout de connaître la fin de cette histoire. Merci à vous Kamal Chekat. Merci à nos auditeurs d'avoir été des nôtres. Nous attendons vos réflexions et vos commentaires sur la page x.com au cœur de l'islam, chaîne 3. Merci à tous. Au revoir.